Décryptage, Marie Cazadebé.
Deuxième journée sous le feu des questions des élus américains. Après le Sénat, Mark Zuckerberg affronte aujourd'hui la Chambre des représentants. Le patron de Facebook doit s'expliquer sur les nombreux scandales qui frappent son réseau social le plus utilisé au monde. Cambridge Analytica, les soupçons d'ingérence russe, il y a de quoi faire.
Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night?
Seriez-vous prêt à partager avec nous le nom de l'hôtel où vous venez de passer la nuit?
Non,
répond Mark Zuckerberg. Voudriez-vous nous dire avec qui vous avez échangé des messages la semaine dernière? Je n'aurais sans doute pas envie de partager cela ici publiquement, répond-il.
Extrait des échanges parfois tendus entre le PDG de Facebook et les sénateurs américains, une façon là de souligner la matière dont dispose le réseau social, une matière au cœur de toutes les affaires du moment, les données personnelles. Mais de quoi s'agit-il exactement? Comment Facebook les connecte-t-il et dans quel but? Pourquoi nos données sont-elles si précieuses qu'on chercherait à les dérober ou à les manipuler? Notre invité va nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Nicolas Harpagian.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes directeur scientifique à l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice. Et vous êtes l'auteur de La Cybersécurité, un ouvrage qui paraîtra donc aux éditions PUF au mois de mai. Question toute simple. Mais qu'est-ce que l'on appelle les données personnelles, en l'occurrence sur Facebook? Puisque c'est peut-être un peu différent selon les sites, mais là on va se concentrer sur Facebook, il y a tellement déjà à dire.
Les données personnelles, c'est tout ce qui permet de rendre une d'identifier une personne. Et donc ça veut dire que ce sont ces éléments qui vont constituer votre nom, votre prénom, des éléments qui vont permettre de vous singulariser. Et c'est vrai d'ailleurs que c'est quelque chose qui a de la valeur. Pourquoi ? Parce que ça va permettre, ainsi compilé, de déterminer des profils, de déterminer de manière assez intime ce qui caractérise votre identité. Et donc c'est la raison pour laquelle ça attire celles et ceux qui veulent mieux vous connaître.
Mais lorsqu'on s'inscrit sur Facebook, on n'a pas l'impression de donner beaucoup de soi. On donne son nom, son prénom, sa date de naissance, peut-être sa ville, une photo. Est-ce que ça se résume à ça,
alors,
finalement?
Alors, vous voyez déjà la liste. Imaginez les autres circonstances de la vie dans laquelle vous êtes amené à communiquer publiquement déjà ces informations. Ces circonstances sont au final assez rares, mais c'est surtout la porte d'entrée que vous évoquez n'est justement que l'accès à un chemin de production de données, c'est-à-dire c'est votre navigation. D'une part, lorsque ce que vous commettez sur le réseau, c'est-à-dire lorsque vous publiez des informations, des photos, des vidéos, que vous écrivez des textes. Ensuite, il y a les informations que vous allez liker, c'est-à-dire que vous allez manifester votre soutien à tel ou tel message, et donc ça va permettre également de compléter le portrait qui peut être fait de vous. Mais et ensuite, vous aurez toutes les personnes qui constituent votre entourage, ces fameux amis, entre guillemets, ces gens qui sont vos connaissances. Donc déjà, c'est une information de savoir que vous connaissez tel et tel individu, mais c'est surtout que vous allez interagir avec eux. Et donc, vous voyez bien que là, le tableau commence à se préciser grandement. Et enfin, dès lors que vous êtes connecté à Facebook et que vous naviguez sur la toile, à chaque fois que vous allez fréquenter un site internet qui comporte ce petit icône de la famille Facebook, qui d'ailleurs vous permet, le cas échéant, de liker là aussi la page, là encore, vous renseignez, c'est-à-dire votre navigation internet sera inscrite dans votre profil. Vous voyez que, au regard de la multitude des sites que vous fréquentez, vous livrez une photographie quasi exhaustive de ce qui constituent les différentes activités que vous avez sur la toile.
Ce que vous venez d'évoquer, c'est quelque chose, j'imagine, que la plupart de nos auditeurs ont vécu, c'est-à-dire ils vont sur Internet, ils vont par exemple sur un site commerçant regarder les chaussures, j'en sais rien, la nouvelle mode, et puis finalement ils reviennent sur leur page Facebook, et qu'est-ce qu'ils trouvent? Des publicités qui correspondent exactement à la recherche qu'ils viennent de faire. Ça, c'est légal.
Alors oui, c'est légal puisque c'est le principe même de la publicité qui justement se fonde sur vos centres d'intérêt. La promesse qui est faite par les annonceurs est de dire vous avez manifesté de l'intérêt pour un canapé, pour un voyage en Espagne ou pour un modèle de voiture. La promesse qui est faite, c'est je vais vous apporter de l'information relative à ces sujets. C'est surtout le fait que je peux vendre à des annonceurs la liste des personnes intéressées précisément par ces sujets et qui d'ailleurs seront amenés à payer la facture au nombre de clics, au nombre de gens qui se seront manifestés sur leur page.
Mais comment ça se fait que ça se retrouve sur Facebook alors que finalement je suis allée sur un autre site? Ou peut-être un moteur de recherche, quelque chose qui n'a rien à voir avec ma page Facebook, qui était peut-être même pas ouverte ce jour-là?
C'est tout à fait vrai. La seule chose, c'est que ça fonde le modèle économique. C'est-à-dire que pour mettre à disposition la technologie de Facebook, son algorithme, c'est-à-dire sa science en quelque sorte, la disponibilité du service, et également les fonctionnalités très diverses concernant les vidéos, concernant les images. Tout cela a un coût et le modèle, puisque vous évoquez d'ailleurs les conditions générales d'utilisation que vous avez obligatoirement signées et donc acceptées, faute peut-être d'ailleurs de les avoir lues ou comprises, parce que il s'avère qu'elles peuvent être complexes et pour des gens qui n'ont pas de compétences juridiques. En fait, il est clair que la matière première, le carburant de cette économie numérique, c'est justement le profilage. Et c'est la contrepartie, c'est la monnaie d'échange de la gratuité du service. Simplement, il faut en être conscient.
On va revenir là-dessus, mais je voudrais qu'on prenne un exemple concret. Un de nos auditeurs décide, et il a bien raison de le faire, de nous suivre sur Facebook, de suivre la page de décryptage. Comment cette action est traitée par le réseau social? Qu'est-ce que cela dit de cet auditeur?
Déjà, ça prouve qu'il s'intéresse aux problématiques internationales. C'est quelqu'un qui a priori un niveau d'études effectivement plutôt élevé, puisque vous traitez des enjeux géopolitiques, des géostratégiques, donc qui ont une dimension. Ensuite, effectivement, ça va permettre par petites touches. Il ne faut pas voir cela comme étant la rédaction d'une fiche policière
littéraire. Oui, c'est ça. Il n'y a personne derrière l'écran qui dit « Ah tiens, il s'intéresse au décryptage, il s'intéresse à la géopolitique. »
En fait, c'est alors soit du pointillisme ou de l'impressionniste. Vous savez, ces peintres qui, par petites touches, composent une toile qui prend toute sa valeur, tout son effet quand vous prenez un peu de recul. Et en fait, l'idée, c'est d'apporter plein d'éléments qui, à l'occasion, et c'est pour ça que c'est important de dire à chaque fois qu'il y a une navigation sur Internet avec un compte Facebook ouvert, effectivement, vous semez autant de petits cailloux qui permettent de caractériser votre profil. C'est pour ça que la compilation d'informations se fait de manière continue et sur l'ensemble des sites. C'est pour ça d'ailleurs que Facebook, comme d'ailleurs Twitter et les autres, encourage les sites Internet à placer ces petits boutons, parce que c'est autant de relais, autant de capteurs qui vont permettre de rapporter de l'information à la base centrale de Facebook.
On comprend donc ce que sont les données personnelles, comment elles sont collectées par Facebook, par exemple, parce qu'évidemment, on parlera peut-être un peu plus tard, énormément d'applis fonctionnent de la même manière. Maintenant, qui se l'intéresse? Écoutez Florian Duetto, il est cofondateur de Dataiku, une entreprise française qui aide des sociétés à valoriser ces données.
On va avoir des clients qui vont être dans le domaine du commerce en ligne, par exemple. Pour eux, l'évolution du produit, c'est comprendre ce que font leurs utilisateurs pour personnaliser l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que si je suis un e-commerçant maintenant, c'est quasiment impossible pour moi que tout le monde reçoit les mêmes offres. Ça n'a presque plus aucun sens. Les gens, maintenant, ils ont un temps d'attention limité. En plus, maintenant, tout le monde est habitué au e-commerce. Il n'y a pas toujours assez de réseau dans le métro pour pouvoir scroller jusqu'en bas des applications. Donc, il faut que les 10 premiers produits qui soient affichés soient les bons. Et ça, c'est critique dans ma stratégie d'e-commerçant. Et donc, il faut être capable de fabriquer toute l'intelligence qui fait que je sais pour chaque utilisateur quels sont les 10 produits que je veux afficher en premier pendant les 10 premières secondes qui passent sur mon site.
Nicolas Arpagian, les sites d'e-commerce, un bon exemple d'entreprise friande des données personnelles.
D'ailleurs, ce sont été ceux qui ont motivé ce dispositif. Les professionnels du marketing parlent de tunnel de conversion. Qu'est-ce que c'est? C'est le moment où vous êtes sur la page d'accueil d'un grand site marchand et au fur et à mesure, vous allez chercher par exemple du mobilier de jardin, vous allez trouver un transat et au fur et à mesure, vous allez chercher des coloris. Bref, vous progressez dans votre processus d'acquisition et puis à un moment, vous allez poser vraiment le modèle ultime, il ne reste plus qu'à valider le prix, inscrire votre carte de paiement, et puis là, vous allez vous arrêter. Et c'est vrai, pourquoi? Pour plein de raisons. Vous avez été distraite, vous trouvez ça un peu cher, bref, vous ne retrouvez pas votre carte bancaire. Et la hantise du commerçant, c'est justement de vous accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la conclusion de la transaction. Il part de l'idée que plus il aura d'informations sur vous, plus il pourra utiliser les bons signaux, les bons messages, et donc vous conclurez cette vente, et la transaction pourra aboutir à son avantage.
Alors, comment se fait le lien entre ces sites-là, entre les entreprises qui sont intéressées par ces données personnelles, à savoir exactement finalement ce dont on rêve et en fait on ne le sait pas encore. Comment se fait ce lien donc entre ces clients, on va dire, et Facebook? Est-ce qu'ils achètent des données personnelles?
Alors, en fait,
à Facebook,
ils achètent soit des profils, soit du trafic, c'est-à-dire faire en sorte de dire voilà, moi je voudrais que quand les gens sont intéressés par acheter un canapé, je voudrais que mes publicités apparaissent sur leur page dès lors qu'ils sont dans une zone par exemple géographique dans lequel je peux procéder à des livraisons ou dans des gammes de prix qui correspondent aux gammes de mes produits de manière à ce que ce soit proportionné au niveau de dépenses du pays en question. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs certains vont me demander à exclure des zones géographiques ou des pays en disant soit je n'ai pas de réseau de distribution, je n'ai pas de revendeur dans ce pays-là, ça ne m'intéresse pas.
Ou c'est une population finalement qui semble pas
suffisamment
assez
solvable ne consomme pas mon type de produit, imaginons un type d'ameublement qui serait populaire dans certaines régions du monde mais pas dans d'autres. autre.
Un parasol dans le Grand Nord.
Par exemple, c'est une bonne illustration où, effectivement, donc il va y avoir des, le but justement d'une régie publicitaire, c'est justement d'ailleurs la promesse de vendre au clic réel. Je m'explique. Lorsque dans des médias conventionnels, les médias papier, physiques, il fallait vendre des études démontrant que le magazine papier, par exemple, est traditionnellement, dans l'année écoulée, lu par des gens de tel ou tel niveau social ou de telle origine géographique. Là, ce que permet de faire le numérique, c'est de se fonder sur des données réelles, c'est-à-dire sur des profils qui peuvent être suivis en temps réel, de manière instantanée, et donc on a une capacité de profilage et, j'allais dire, de suivi de la performance entre la mise à disposition d'un message et ce fameux tunnel de conversion, ouais. C'est-à-dire est-ce que ça se traduit en chiffre d'affaires, qui fait que ce sont les outils qui exigent de compiler beaucoup d'informations de manière à avoir une photographie la plus claire possible de ce qui constitue la promesse commerciale.
L'étude, voilà, est donc déjà faite, c'est ça que vous nous dites, et Facebook finalement vend de l'espace publicitaire extrêmement précis, hyper ciblé. Pour revenir au modèle économique, qu'est-ce que cette vente d'espace publicitaire, par exemple, représente sur le chiffre d'affaires de Facebook?
Alors, c'est l'essentiel, puisque tout le modèle économique de Facebook est justement nourri de cette exploitation de l'information. Mais c'est peut-être d'ailleurs ce qui crée la surprise de Mark Zuckerberg quand il est convoqué, parce que il dit, mais c'est notre modèle économique. À la limite, nous n'avons jamais menti, nous n'avons jamais dissimulé cela. Mmh. Et c'est vrai que c'est là où les utilisateurs que nous sommes, largement, on parle de plus de 2 milliards d'utiles d'inscrits sur la plateforme, prenons celle de Facebook, doivent se poser la question, quelle est la contrepartie que j'accepte de payer en échange de la mise à disposition de mon profil à des entreprises commerciales. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a bien forcément une économie derrière cela, c'est-à-dire soit celle de l'abonnement, si on était sur une formule payante. Elle a été évoquée à un moment, les parlementaires américains ont évoqué cette question dans les cadres des auditions. Mark Zuckerberg a dit que, bon, évidemment, si c'était le cas, il faudrait, c'était pas à l'ordre du jour, et que bien sûr, cela constituerait un bouleversement du modèle économique historique de Facebook qui ne semblait pas appelé de ses voeux. Mais par contre, il doit y avoir une prise de conscience de la part des citoyens internautes que nous sommes de la contrepartie de cette économie de la gratuité.
C'est donc gratuit parce que finalement, c'est une autre façon de payer. On paye finalement avec un peu de soi, avec un peu de son portrait qu'on
dessine finalement sur son profil. Vous avez tout à fait raison, et c'est la raison pour laquelle il y a une forte dimension culturelle. L'Europe et le continent européen est très vigilant, a une tradition. La France, prenez l'exemple de la France, a une loi sur la protection des données personnelles depuis 1978. Elle vient de fêter ses 40 ans. Vous voyez que le continent européen se dote d'un règlement général sur la protection des données personnelles qui entre en vigueur donc pour toute la zone européenne les 28 au mois de mai 2018. Évidemment, la hantise d'une entreprise comme Facebook, ce serait de voir une généralisation de ce type de réglementation exigeante à l'encontre de celles et ceux qui produisent, collectent et revendent, et a fortiori cartographient ces données.
Parce que moins Facebook sera libre d'avoir accès à nos données, finalement, moins il sera riche, et moins ce sera donc une affaire qui roule. Vous parliez de 2 milliards d'utilisateurs, et je reprends juste cette phrase qui m'a été soufflée par le service économique de RFI, quand c'est gratuit, c'est nous le produit.
Certainement, il faut bien qu'il y ait une monnaie d'échange, un carburant à ce moteur économique, en l'occurrence ce sont les données. Alors, la promesse est dans la plaidoirie qu'a prononcé Mark Zuckerberg, c'est de dire, mais vous comprenez que par l'accumulation d'informations, nous estimons que nous arrivons à des publicités les plus adaptées, les plus personnalisées. Mmh. C'est presque la contrepartie de cette exhaustivité du portrait qui est livré aux régies publicitaires. Bon, évidemment, plus vous livrez de votre personnalité, plus on va pouvoir... Par contre, c'est vrai que la problématique des données personnelles, le site de rencontre homosexuelle Grindr l'a vécu il y a quelques jours, il s'avère que, par exemple, il a communiqué à des partenaires le statut sérologique et la date de dernier examen du statut sérologique de ses abonnés. Vous voyez bien à quelle profondeur.
Parce que les abonnés, effectivement, avaient donné, il faut quand même préciser, avaient
bien
donné
sûr.
Ces informations, les avaient communiquées sur leur profil. C'était important, effectivement, pour envisager une rencontre.
Bien sûr.
Décryptage, Marie Casadebé.
la suite de notre décryptage sur les données personnelles sur Facebook. Pourquoi sont-elles si précieuses? Nicolas Arpajian, est-ce qu'on peut dire finalement que les données personnelles, c'est un peu le carburant de l'intelligence artificielle? Et c'est devenu nouvel or noir.
En tout cas, c'est devenu l'élément qui va permettre de formuler des offres les plus personnalisées possibles. La préoccupation jusqu'au présent du modèle économique était des médias, notamment, était de dire voilà, moi je vais faire un produit qui doit servir le plus grand nombre, l'audience la plus large. Là, on va inverser le modèle en partant de l'idée qu'on va s'intéresser aux individus. Ce qui fait que le contenu que vous allez consulter en tant qu'internaute ne sera pas le même que celui de votre conjoint, celui de votre voisin, celui de votre supérieur. En fait, l'idée, c'est que on va adapter le message. Et vous voyez bien que ça correspond d'ailleurs à la deuxième séquence dans le cas des auditions de Mark Zuckerberg au Parlement états-unien. Mmh. C'est le fait que la maîtrise de l'information qui va être rendue disponible sur la base de ce profilage. Et donc, on va voir que on va rompre avec une logique d'information uniforme, c'est-à-dire ce qui était un peu le cas si nous regardions tous le même journal télévisé, tout le monde a accès au même moment à la même information. Libre à chacun de l'apprécier ou de s'y intéresser ou pas. Là, au contraire, on va dans l'hyper-personnalisation et donc chacun risque d'avoir une information ou a la chance de, et ça c'est effectivement une histoire de point de vue, qui lui soit propre en fonction de ses centres d'intérêt. Et c'est pour ça qu'on a évoqué le risque d'un enfermement intellectuel, le fait d'avoir des choses. En clair, parlez-moi de moi, il n'y a que ça
d'être
qui m'intéresse.
Avec, oui, c'est ça, d'être entouré de gens qui nous ressemblent.
Et d'être dans un univers et de limiter les circonstances dans lesquelles on pourrait s'ouvrir au monde et découvrir. Mais c'est bien l'hyper-personnalisation qui est rendue possible, même à l'échelle potentiellement de 2 milliards de personnes.
L'autre dérive, évidemment, ce sont les scandales, hein, puisque ces données peuvent aussi bien servir à des fins commerciales que des fins politiques. C'est l'affaire hein, Cambridge Analytica ou les soupçons d'ingérence russe dans la campagne américaine. Écoutez ce sénateur américain décrire une publicité anti-Clinton achetée en Russie en 2016, c'était lors de l'audition d'un des responsables de Facebook en octobre dernier.
Cette publicité dit, je cite, Hillary Clinton est avec Barack Obama la plus méprisée par les vétérans de l'armée et que si elle était élue, le contrôle de l'armée devrait lui être retiré. Cette publicité n'est rien d'autre qu'une ingérence directe du gouvernement russe dans nos élections. Un mensonge aux citoyens américains qui pensent être sur la page de vétérans basés au Texas, alors qu'en fait, tout cela est payé en roubles par des Russes. Est-il normal que des publicités politiques achetées par nos adversaires étrangers se retrouvent sur Facebook ?
Nicolas Arpajian, les récents scandales ont vraiment fait naître une prise de conscience, j'ai l'impression, chez les utilisateurs. Regardez, on en parle aujourd'hui. Est-ce qu'elle est dangereuse pour l'entreprise californienne? Parce que j'imagine que plus elle a d'utilisateurs, plus ses données sont chères et intéressantes. Est-ce que si on se déconnecte, si on quitte Facebook?
Alors là, en fait, il y a plusieurs fronts qui s'ouvrent désormais. Le premier front, c'est réglementaire. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, hormis la zone Europe, les États-Unis étaient plutôt, un pays
libertin,
voilà, plutôt permissif sur ce donné-là. Donc la première hantise, le premier front, c'est qui est un peu inquiété Facebook, c'est est-ce qu'on va vers un corpus juridique plus contraignant? Et donc, effectivement, c'est pour ça que son mea culpa a vocation à dire, voilà, j'ai compris le message, j'ai compris la leçon, ne vous préoccupez pas de constituer des législations ad hoc. Deuxième chose, c'est effectivement la confiance des utilisateurs. Vous avez vu un hashtag sur Twitter, delete Facebook. Bon, un certain nombre de personnalités...
Sur un autre réseau social, c'est assez ironique.
Voilà, c'est pour ça qu'un certain nombre de personnalités, d'ailleurs, dont cofondateur de WhatsApp, qui lui-même a vendu son entreprise à Facebook... on voit bien que on a un débat. La seule chose, c'est est-ce qu'on peut vraiment le faire? Est-ce qu'on a envie de le faire? Et la deuxième, surtout, est-ce que l'utilisation de Facebook Connect, c'est-à-dire l'élément d'identification qui sert pour l'accès à d'autres plateformes, risque pas de déranger, pénaliser ceux qui voudraient justement rompre avec la plateforme de Mark Zuckerberg? Troisième élément,
oui,
pardon, c'est le fait, le risque de effectivement de désertion, soit de la jeune génération. Alors il s'avère que Facebook a de la ressource puisque là il a acheté Instagram, il a acheté WhatsApp, c'est-à-dire des sites qui peuvent servir en quelque sorte d'alternative et qui sont également des outils de captation d'informations et de données personnelles. Mais c'est vrai quand même que, même si l'entreprise est très florissante, dispose de ressources en cash conséquentes, c'est le risque effectivement de la ringardisation qui est également un péril dès lors que le lien en plus de confiance se déliterait avec ses utilisateurs.
Merci beaucoup Nicolas Arpajian. J'invite nos auditeurs à se procurer au mois de mai La cybersécurité, votre ouvrage qui va paraître aux éditions PIF. Merci à toute l'équipe de décryptage Éléonore Krenik, Gérard Perrault, Anaïs Chikaya et Claude Battista. Décryptage est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter.